Merci pour cette invitation qui me touche, qui me flatte. Je suis très heureuse d'être ici. Et merci pour ce très beau résumé de mon travail et des questions que je pose. Ma fille s'inscrit au sein de ces discussions philosophiques. Or, elle n'a pas beaucoup de place en philosophie. Et mon travail a consisté à lui trouver une place au sein de la philosophie pour faire évoluer les idées dans le raisonnement philosophique. C'est une jeune femme handicapée, mais la littérature sur le handicap ne traite que très peu du handicap cognitif. Il traite surtout du handicap physique. Et donc, les articles dans la philosophie du handicap ne s'appliquent pas véritablement au cas de ma fille. Néanmoins, je suis convaincue que dans la situation de ma fille, dans le soin de ma fille, sa dépendance, il y a là une expérience très positive pour toute la communauté dans son ensemble et pour chacun d'entre nous au sein de cette communauté. Donc, ma présentation a pour objet de traiter de la querelle entre le CAIR et la théorie du handicap pour tenter d'aboutir à une résolution. Donc les perspectives théoriques que nous adoptons sont souvent, sans doute de manière inévitable, une fonction de la position que nous occupons. Mon point de vue sur le handicap dérive de ma position comme étant une mère capable, mère d'une enfant handicapée. Cette personne est ma fille. J'ai beaucoup écrit à propos de Sacha. Aujourd'hui, Sacha a 48 ans. Sacha est une femme sociable, aimable, très gentille, mais également avec une volonté de faire. Elle adore sa vie. Elle prend un grand plaisir aux choses qui l'émeuvent, les personnes qu'elle aime, les aliments qu'elle mange et surtout sa musique. Elle ne sait ni parler, elle ne sait ni parler ni marcher, elle ne sait pas faire sa toilette, elle ne sait pas prendre soin d'elle de manière indépendante. Le handicap peut être une construction sociale de différentes façons, mais le handicap de Sacha ne va pas disparaître, quel que soit le soutien et les moyens de remédiation que nous allons mettre en place. Elle a besoin de care, notamment pour survivre au jour le jour. En tant que maman et aidant d'une personne souffrant de ce type de handicap, le care est au centre de ma compréhension du handicap. En tant que philosophe intéressé dans nos vies morales, l'éthique du care a été la perche théorique à partir de laquelle j'ai pu penser le handicap. Je suis convaincue que le mouvement du handicap et que l'éthique du care doivent être amis, alliés, et doivent permettre aux gens souffrant de handicap de vivre des vies épanouissantes. Pourtant, à de nombreuses reprises dans le monde aujourd'hui, il semble que ces deux notions entrent en collision. Vous avez des gens qui se centrent sur les notions de dépendance, d'indépendance et de care. Ceux qui se plaident en faveur du handicap ont parlé de la construction sociale de la dépendance pour les personnes handicapées et ont tenté de découpler le handicap de ses désavantages inhérents, c'est-à-dire que quand vous êtes handicapé, on dit que le désavantage n'est pas, que le désavantage est inhérent, et donc d'éliminer la stigmatisation de la dépendance et du care. Ils ont donc travaillé pour essayer de permettre aux gens handicapés de vivre de manière indépendante. Les personnes qui travaillent dans l'éthique du care, d'un autre côté, ont essayé de réhabiliter et de redonner une valeur au concept qui trop souvent véhicule une certaine sentimentalité et un paternalisme qui stigmatise. En même temps, ceux qui travaillent dans l'éthique du care ont travaillé pour déstigmatiser la dépendance. Au lieu de voir la dépendance comme condition qui est évidemment mauvaise, les éthicistes ont essayé de neutraliser, voire même de réévaluer le terme, en disant que toute vie humaine s'ancre dans la dépendance. Ils ont dit que les sociétés libérales contemporaines donnent trop de valeur à l'indépendance aux dépens des personnes isolées et vulnérables. L'indépendance, qui a certes beaucoup de valeur, peut également être source d'isolement, alors que la dépendance, en dépit des aspects négatifs qui lui sont associés, crée du lien et des connexions. Ce débat entre les mots et les valeurs peut quelquefois être trop mis en avant. Dans la mesure où la vie des personnes souffrant de handicap sont plus précaires, ils dépendent du care plus que des personnes qui ne sont pas handicapées. Mais dans le même temps, que nous soyons handicapés aujourd'hui ou non, aucun d'entre nous ne peut éviter la dépendance. Tous avons besoin de care à un moment dans nos vies. Nous avons tous été enfants, nous avons tous eu besoin que l'on prenne soin de nous, et nous devons tous savoir que nous aurons ce care quand nous en aurons besoin. Alors que les personnes handicapées doivent reconnaître l'importance du care et les limites de l'indépendance, ceux qui travaillent dans l'éthique du care doivent également reconnaître les désavantages de la dépendance et dans quelle mesure le care peut être infantilisant. Ce que je suggère, c'est que nous avons besoin tout d'abord d'une bonne vision de la dépendance et de l'indépendance, et ensuite qu'une éthique du care, nous avons besoin d'une éthique du care qui puisse être adoptée par les militants et par les universitaires. Il est particulièrement critique d'avoir une éthique du care qui réponde aux véritables besoins et aux besoins légitimes des personnes handicapées, qui protègent leur dignité et qui reconnaissent toute personne impliquée dans la relation de care. Notre dépendance humaine exige que nous ayons cette éthique du care qui soit adéquate et qui permette d'approcher tous les besoins de dépendance sans réduire le statut de la personne ayant besoin de ce soin. Donc je vais maintenant parler des relations de dépendance et d'indépendance dont nous avons besoin, et ensuite je vous parlerai de l'éthique du care qui, je l'espère, sera adoptée même par les gens qui travaillent dans l'éthique du soin. Peut-être que là j'espère un peu trop. Bien que le care ne soit pas un concept ayant été bien développé en philosophie, dès lors que l'on commence à y réfléchir, il devient très rapidement évident que le care doit avoir sa place pour la construction d'une bonne vie, d'une vie éthique. Le concept d'une éthique distinctive qui s'oriente vers le care a été introduite par Carol Gilligan dans une tentative de trajectoire de développement, de définir une trajectoire de développement, surtout chez la femme et les jeunes filles. Mais une éthique du care est désormais plus une éthique qui décrit la perspective morale de nombreuses femmes. En fait, cette philosophie morale avait besoin de gérer la dépendance inévitable et d'inclure les personnes handicapées, leurs familles et les aidants. Les universitaires du handicap souvent préfèrent faire appel à l'éthique centrée sur les droits. Les droits, et on parle surtout de droits négatifs de liberté par rapport à l'interférence d'agents présupposés qui sont indépendants, qui peuvent fonctionner de manière tout à fait normale. Donc les droits dépendent d'autrui. Mais maintenant, si l'on parle des droits comme des droits humains, et vous savez qu'il y a les droits humains qui sont proclamés par la Déclaration des droits humains, ces droits humains ne peuvent être vus comme le canevas pour le CAIR. Les droits des individuels, les droits positifs, les droits à l'alimentation, au logement, à avoir des relations avec autrui, par exemple, ne se produisent que par le travail d'aidant d'autres personnes. Pour des êtres humains tels que ma fille, son droit à l'alimentation ne se réalise que lorsque d'autres personnes lui proposent de l'alimentation. De la même manière qu'une personne en fauteuil roulant ne pourra avoir proclamé son droit à la mobilité que dès lors qu'il pourra se déplacer dans son fauteuil. Donc, réalisons que nous dépendons du care procuré par autrui et nous avons besoin de ce care pour faire valoir nos droits dans nos vies. Et donc, cela veut dire qu'il est totalement impossible de réduire le rôle des aidants qui apporte ce soin et cette aide aux personnes handicapées. Ce care, pour moi, n'est pas un care au sens totalement normatif. Par ceci, j'entends le care tel qu'il devait être mis en œuvre. Donc, quand je parle du care au sens totalement normatif, c'est le care tel qu'il devrait être mis en œuvre. Et c'est le care qui fait ce qu'il est censé faire. Pas seulement ce que l'on appelle le care, ce que l'on décrit comme étant le care aujourd'hui. Parce que bien souvent, quand on parle de care aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas le care tel qu'il devrait l'être. Alors, qu'est-ce que le care ? Quel doit être l'effet de cette action ? Eh bien, pour moi, ce n'est pas seulement répondre à des besoins physiques, mais promouvoir également l'épanouissement de la personne dont on prend soin, sans pour autant négliger ou exploiter l'aidant.
Et c'est bien ce type de care-là qui doit inspirer l'éthique du care. Pour développer une telle éthique du care, eh bien, il va falloir affiner le concept du care et la façon que l'on a d'en parler. Considérer, par exemple, que l'on ne parle jamais de quelqu'un comme étant trop juste. Par exemple, on parle d'une personne en disant qu'elle peut être trop rigide dans sa façon d'appliquer des lois ou des principes. Parfois, on peut dire qu'une personne est trop rigide dans sa façon de faire la justice en étant trop dur, ce qui ne signifie pas forcément que cette personne est juste. Or, que pour quelque chose que soit juste, il faut qu'il y ait approbation, même s'il peut y avoir un certain nombre de réserves en fonction des valeurs de chacun. Le care peut ne pas être une vertu au sens complètement normatif et dans la conception morale. Si on peut par exemple donner trop de care. Lorsque j'enseigne le care, c'est ce que me disent notamment mes étudiants, on peut donner trop de care. Voulant dire par là, ce n'est pas forcément ce que l'on attend en matière de care. Par ailleurs, une conception normative du care doit entraîner l'épanouissement de toutes les parties, l'aidant et la personne qui bénéficie du soin, et même au-delà de la relation. Le care doit respecter et doit avoir pour objectif de répondre aux véritables besoins, aux vrais besoins, et au désir légitime de chacun, particulièrement lorsque cette autre personne est une personne qui est de manière soit permanente, soit temporaire, dépendante. Lorsque j'en parle de besoins, de vrais besoins, je parle des besoins qui, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, vont freiner l'épanouissement de cette personne, voire avoir un impact négatif sur cette personne. Par besoin légitime, je fais référence au besoin que la personne qui doit bénéficier des soins doit avoir sans souffrir. On peut en fait parler d'idéaux régulateurs ou de régulation dans le domaine du care. Voilà, les idéaux de régulation du care. On ne peut pas toujours savoir, lorsque l'on donne du care à quelqu'un, si ce que l'on fait, ce que l'on répond. Et en tout cas, ce qui est important, c'est la volonté. On ne veut pas s'occuper de quelqu'un d'une façon qui rendrait impossible qu'une autre personne puisse proposer ou dispenser du care. Lorsque l'on prend le care comme étant la valeur suprême, ce qui veut dire que non seulement elle est importante pour moi, qui donne du care, mais tout aussi important, si je considère qu'il s'agit d'une valeur si importante, et bien dans ce cas-là, il faudrait que les autres personnes puissent aussi proposer un care aux personnes qui sont importantes pour ces personnes-là. Donc il faut que je me soucie du care et du care que les autres peuvent fournir à d'autres personnes en ayant besoin. Voilà, je parle donc d'idéal régulateur parce que on ne peut pas toujours savoir quels sont les véritables besoins de l'autre. Par contre, l'on peut essayer de chercher à quoi correspondent ses besoins, à quoi correspondent ses désirs. Donc, quelque part, il guide notre action même si on ne peut pas forcément arriver à l'idéal. Alors, même si je pense que dans l'éthique du care doit couvrir l'ensemble des aspects de la vie, il est existentiellement important dans la vie d'une personne qui est aussi dépendante que ma fille. Sans care, sans soin, elle périrait en l'espace de quelques jours, comme un jeune bébé. Et sans care de bonne qualité, elle ne pourrait pas avoir une vie épanouissante. Lorsque je vois le niveau, le besoin de ma fille et l'impact des aidants, eh bien, il m'est apparu évidemment que les aidants ont d'énormes obligations, mais que parfois ils peuvent se tromper la relation de dépendance. Alors, essayons d'explorer comment et à quel moment le care peut ne pas bien se passer. La personne qui ne donne pas un bon niveau de care pourrait peut-être privilégier ses propres intérêts, ses propres désirs, même lorsque cela se fait au détriment de la personne qui a besoin d'elle. Cela peut se faire par le manque d'attention, en faisant preuve de négligence parfois, voire d'une certaine dominance face à un individu vulnérable. Alors il ne s'agit pas simplement de négligence, parfois il s'agit d'abus, voire de violence, qui vont saboter le care, et parfois même les bonnes intentions peuvent interférer avec le care, le véritable care, lorsque le désir d'aider est plus lié à son désir à soi, celui de l'aidant, que celui que le besoin de la personne en situation de handicap. les bonnes intentions ne produisent pas toujours un bon niveau de care lorsque l'aidant est incompétent ou mal formé, par exemple. Les meilleures intentions du monde ne pourront pas forcément produire un bon niveau de care lorsque l'aidant va vouloir imposer des choses qui sont basées sur ses propres interprétations de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Ce qui est important, c'est la personne qui bénéficie des soins qui doit considérer que le soin qui lui est proposé est bon. Voilà, il y a donc une asymétrie dans le pouvoir entre l'aidant et le bénéficiaire. Parfois, on parle, notamment Sarah Ruddick, que vous connaissez peut-être, elle parle de tentations, les tentations du care. Et contre ces tentations, le concept même de care nous permet d'identifier que la question de l'éthique du care doit consister à voir comment le pouvoir peut se transformer en domination. Et essayer plutôt d'obtenir une situation inverse. La dépendance de ma fille, son incapacité évidente de rendre, son incapacité à s'exprimer, donc à répondre de manière verbale à un aidant, m'a permis de mettre de côté l'idée qu'à un moment donné, une idée qui me semble finalement être très importante, c'est la réception du care. Comment le care est absorbé par la personne qui en bénéficie. Comme le disait Nell Nodding, qui parle de « completion of care ». Sacha, ma fille ne pouvait pas parler, ne pouvait pas dire maman, alors c'est ce que j'aurais voulu entendre, mais elle ne pouvait pas non plus s'échapper en me disant maman, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Et puis un jour, il a fallu que je m'occupe de ma maman, qui était malade, qui elle a fréquemment rejeté et refusé mon aide. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ma fille répondait immensément au care que je lui donnais. C'est elle qui faisait cette completion, mais elle le faisait avec tant de grâce que j'étais passé complètement à côté. Je parlerai tout à l'heure de cette idée de completion of care. Donc, voir la dépendance parfois extrême de ma fille m'a permis de comprendre que une grosse partie de la dépendance est sociale, l'indépendance l'est tout autant. La dépendance de Sécha n'a pas été un poids, n'a pas été un problème. Sa dépendance a été l'occasion d'une véritable proximité, d'une interaction. Cette dépendance extrême m'a permis de voir la dépendance dans laquelle nous vivons tous à un moment donné dans nos vies. Alors, pour comprendre la dépendance dans ces termes-là, c'est un petit peu nager à contre-courant de tous les mouvements de libération et d'indépendance. Dans tout mouvement de libération, on essaye de surmonter la capacité de l'oppresseur vis-à-vis de l'oppresseur par rapport à l'opprimé. La dépendance imposée permet de voir immensément de choses. Les personnes qui sont en situation de handicap rendent l'indépendance comme quelque chose de tout à fait central. Les écrivains comme Michael Oliver ont indiqué que la dépendance est quelque chose d'extrêmement central dans le handicap, qui est toujours vu et perçu comme un problème social. Plus récemment, on a pu voir également avec Oliver en 1989, que lorsque l'on prend un peu de recul, on peut se poser la question de savoir pourquoi les humains qui appartiennent à une espèce sociale ont un tel regard sur la dépendance.
La dépendance d'autrui permet de prendre soin, permet d'acquérir des connaissances, de la culture, des technologies et des biens économiques et sociaux. Les conditions sine qua non de la vie humaine à toute époque. La dépendance des services gouvernementaux qu'aux États-Unis on appelle de manière très péjorative les avantages aux personnes faibles sont le premier avantage d'une vie moderne dans un État bien géré et bien ordonné. Le sénateur Patrick Moynihan a averti que les adultes dépendants, il parlait donc de la dépendance par rapport à l'État providence, étaient en suspendu, comme s'ils étaient étranglés par une corde prête à les asphyxier. C'est parce que ce qui nous effraie tous, c'est la dépendance. Et tant que nous ne pourrons pas traiter de ces inquiétudes, nous ne pourrons pas aller au-delà de la tismaxie. De la stigmatisation et de la terreur. Donc, quelles sont ces inquiétudes? Dès lors que nous sommes dépendants, nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes. Nous avons besoin d'autrui. Et cet autrui aura le pouvoir d'apporter son aide ou de ne pas l'apporter. Et donc, ça crée une relation de domination. Par ailleurs, l'aidant peut se trouver dans l'incapacité de fournir ce care nécessaire parce que la personne dépendante peut avoir affaire à quelqu'un, à une personne aidante qui ne sera pas à la hauteur. Et de l'autre côté, l'aidant peut se retrouver dans une telle situation que la personne qu'elles aident va les trahir. Et c'est ce que j'appelle l'imbrication des dépendances, un petit peu comme des poupées russes, si vous voulez. Vous avez ces chaînes de dépendance, d'interdépendance, qui permettent à la société de fonctionner de manière ordonnée. Mais dès lors que cela ne fonctionne pas, cela veut dire que le dépendant peut se retrouver avec des désirs, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et dans une relation asymétrique, comme la relation de dépendance, nous ne recevons de care que dès lors que l'aidant décide d'aider et de nous apporter l'aide qu'il pense que dont nous avons besoin. Donc cette asymétrie crée également une dette de gratitude que la personne handicapée peut se retrouver incapable de rembourser en quelque sorte, et ce qui peut créer du ressentiment. Donc non seulement il y a vulnérabilité, mais il y a ce sentiment de dette de gratitude qui vient ronger notre sentiment de fierté, notre confiance en nous, et qui va ensuite nourrir des sentiments de ressentiment parce que nous nous sentons redevables de quelque chose. Autre caractéristique compliquée de la dépendance, c'est que les choses les plus importantes pour nous, les choses dont nous avons le plus besoin, sont les choses qui nous rendent le plus vulnérables. Alors, nous pouvons éviter une grande partie de cette vulnérabilité, mais cela se paye par le prix de ne pas accorder d'importance particulière à différentes choses qui font que la vie mérite d'être vécue. Et c'est là que les relations de dépendance apportent de la valeur à notre vie et qui vont bien au-delà de la valeur du besoin satisfait. Et ces relations sont également les plus confuses parce que perdre ces relations, c'est perdre énormément. Et dans une relation de dépendance asymétrique, c'est celui qui a le pouvoir, qui va décider si la relation perdure ou non. Donc encore une fois, la dépendance nous rend totalement impuissants par rapport à quelque chose qui est important pour nous. Donc là, évidemment, la dépendance fait peur. Alors, là, je vais passer quelques passages, excusez-moi. Nombre de nos dépendances sont totalement inévitables, et inévitables pour des raisons simplement biologiques. D'autres dépendances qui sont les nôtres ne sont pas fondées de manière biologique et ne sont pas inévitables. Elles sont créées par un conditionnement social et historique. Mais je souhaite maintenant ne parler que des dépendances biologiques. Il y a des choses inévitables qui nous font peur, telles que la mort, mais pour le reste, nous l'acceptons et le vivons avec beaucoup de résilience. L'alimentation, par exemple, se nourrir, c'est inévitable, nous en avons besoin pour vivre et nous l'acceptons. Et ce besoin se moque de notre religion, de nos origines ethniques, de nos origines familiales, même si la France, dans un pays comme la France, vous savez très bien que la nourriture crée du lien. Donc au-delà, il y a un besoin biologique, au-delà du simple désir. Et ces dépendances, qui sont donc des dépendances biologiques, sont des dépendances que partagent tous les êtres humains. Maintenant, l'occupant du paradigme dans ces relations de dépendance sont les enfants. Parce que les adultes dépendants sont infantilisés, considérés comme incapables, comme restés dans l'enfance, et sont supposés et sont bien souvent victimes d'attitudes paternalistes. Et ces réponses très insultantes à la dépendance des adultes peuvent entraîner une terreur émotionnel et beaucoup d'erreurs au niveau conceptuel. Nous refusons de reconnaître que ces adultes sont comme nous et que nous sommes comme eux parce que leur handicap nous fait peur et que tout comme eux, un jour peut-être serons-nous dépendants. Et au-delà de cela, il y a également une confusion au niveau des concepts. Parce qu'on a tendance à attribuer à tout membre d'une classe les caractéristiques du paradigme de la classe en question. Donc, par exemple, le paradigme de la dépendance, c'est l'enfant. Donc, toute personne dépendante est-elle un enfant? Mais si l'on prend toutes les caractéristiques du paradigme que l'on attribue à d'autres membres de la classe et l'attribuer aux autres membres de la classe, c'est une erreur. Les hirondelles, ce sont des oiseaux, mais les pingouins le sont aussi. Et ce serait faire une grossière erreur que de traiter un pingouin comme une hirondelle et que de mettre un pingouin sur les fils électriques dans nos rues, et comme ce serait une erreur que d'envoyer une hirondelle dans l'océan Arctique. Donc, même si vous avez des oiseaux, donc en termes d'espèces, ils font bien partie de la même famille, les hirondelles et les pingouins, ce sont des oiseaux. Ils ont tous besoin d'ailes pour se déplacer. Mais les ailes d'une hirondelle sont totalement inutiles dans l'eau, alors que les ailes du pingouin sont totalement inutiles dans l'eau, dans l'air. Donc, des gens comme ma fille, ou des personnes avec Alzheimer, ou des personnes ayant souffert d'un sérieux AVC sont certainement des personnes dépendantes, mais elles ont des besoins, elles ont besoin d'être nourries, et leur réponse à l'apport d'alimentation va être aussi différente d'une personne à l'autre que vous avez de différence entre une hirondelle et un pingouin. J'en arrive maintenant à l'indépendance. Pour contester l'image d'une personne handicapée comme étant un objet infantilisé, objet de soucis paternalistes, on a bien souvent proposé un narratif, un contre-narratif. En proposant une assistance adaptée, les personnes handicapée pourrait vivre de manière indépendante. Il y a une grande activiste du mouvement de l'indépendance et qui dit que, notamment Judy Human, dit que l'indépendance est un processus intellectuel qui n'est pas contingent du physique du corps. Ce contre-narratif dépend d'un glissement dès lors que l'on a compris l'indépendance comme étant l'autosuffisance par rapport à l'indépendance en tant que autodétermination. Travaillant avec les activistes du mouvement des droits civiques, le Conseil des personnes handicapées a travaillé sur les droits de ces personnes. Et même si la création des dépendances est une bonne nouvelle pour les personnes aidantes, c'est une très mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie du contribuable et c'est une très mauvaise nouvelle pour les personnes handicapées elles-mêmes. Et cela entraîne de grosses résistances. Donc, si l'on regarde la notion d'indépendance qui est encouragée par les associations de personnes handicapées, c'est là une notion qui n'a pas toujours été acceptée. Irving Zoller écrivait que arriver à un endroit à son propre rythme le fatiguait beaucoup. Et donc, quand il arrivait trop fatigué, il était incapable d'effectuer la tâche pour laquelle il s'était déplacé. Donc, il s'était rendu compte que pour avoir une vie de qualité, il avait besoin d'aide. Et cette demande d'aide, c'était une aide pour plus de mobilité, plus d'accès au logement, etc. Et tout cela s'est cristallisé sur la fourniture d'un assistant personnel, ce qui a permis à Zola et à d'autres de vivre, entre guillemets, de manière indépendante. Ils peuvent vivre de manière indépendante. Enfin, ils disent, nous vivons de manière indépendante. Mais que veut dire cette indépendance? Cette indépendance, ça veut dire que nous aurons besoin de quelqu'un pour nous assister. Et c'est à cette condition que nous pouvons être indépendants. Le contre-narratif a redéfini l'indépendance comme incluant, je cite, le réseau vaste d'assistance qui rend possible la vie moderne. Donc, un universitaire moderne qui s'appelle Lennard Davis dit que l'état d'exception du handicap devient l'état non exceptionnel de l'existence. Donc, David essaye d'assimiler le besoin d'assistance des personnes handicapées dans des réseaux d'assistance et de fournitures d'assistance nécessaires dans la vie moderne. Ceci étant, je suis convaincu que nous sommes tous dépendants. Et nous sommes tous dépendants d'un réseau vaste d'aide et d'assistance. Et c'est grâce à cela, d'ailleurs, que nous sommes indépendants. Je pense également que s'il y a beaucoup à dire sur cette idée, il faut également démasquer la fiction de l'indépendance et de l'autosuffisance. Tant que nous entretiendrons cette fiction, les personnes les plus désavantagées, celles qui n'auront pas l'assistance nécessaire, resteront en marge de nos sociétés, n'auront pas accès au care, à l'assistance, et ne pourront s'intégrer totalement dans nos sociétés. Donc, au-delà de cela, l'application de la vie du concept de vie indépendante peut être limitée également. Le Conseil britannique des personnes handicapées a décidé, par exemple, à développer un concept selon lequel les personnes handicapées avaient besoin que l'on s'occupe d'elles. Alors oui, il y a des personnes handicapées qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Et oui, mais d'un autre côté, il faut aussi permettre aux gens de contrôler et de décider ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. même les personnes handicapées, vous avez certains handicaps qui n'affectent que les capacités motrices. Mais par contre, il y en a des handicaps qui affectent la capacité à déterminer ce dont vous avez besoin, et ça, c'est le handicap cognitif. Bref, tout s'articule sur cette croyance que si les gens devenaient plus dépendants, ça coûterait moins cher. Plus indépendant, cela coûterait moins cher. Quand quelqu'un devient indépendant, ça coûte moins cher que d'hospitaliser les gens. Et en plus, ces gens handicapés peuvent devenir des membres productifs dans la société. Et donc, par leur travail, ils peuvent rembourser en partie les coûts mis en œuvre pour leur apporter un service. Et cet argument développe en fait l'idée que les personnes handicapées sont une charge pour la société. Néanmoins, cela entretient l'idée selon laquelle le public n'est pas responsable des personnes qui ne sont pas capables de se prendre en charge tout seuls. Parce que cela marginalise ceux qui sont déjà marginalisés, et cela est également au détriment de gens qui pourrait devenir indépendant avec un tout petit peu d'aide. Donc, les arguments d'indépendance et de productivité sont valables dès lors que les personnes peuvent avoir un travail qui soit épanouissant. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'attente de travail s'impose pour qui cela est possible, mais pour ceux pour qui cela n'est pas possible, on leur demande d'effectuer des tâches sans réelle valeur afin de pouvoir continuer à les considérer comme étant productifs. Et là, c'est une vision de punition, parce que c'est la productivité au travail en plus diminue avec l'âge. Donc, la demande d'indépendance des personnes handicapées dépend de la disponibilité et des aidants. Mais il y a un danger. Dès lors que l'on dit que l'indépendance s'obtient par le recrutement d'assistants personnels, le danger consiste en ce que la dépendance de la personne handicapée rend l'aidant invisible et que son statut ne passe que derrière le statut de la personne au service duquel l'aidant est mis. Donc, Michael Oliver, dans sa critique des politiques sociales, établit un contraste entre ce que l'on comprend du handicap et la vision des professionnels. Il écrit: on a tendance à définir l'indépendance en termes de capacité à prendre soin de soi-même. Par exemple, faire sa toilette, s'habiller, faire la cuisine, etc. Ok. Mais alors, à ce moment-là, posons la question. Qu'en est-il de toutes ces personnes qui réalisent ces tâches, qui lavent, qui font les toilettes, qui donnent à manger, etc. Aux États-Unis, ce sont bien souvent les familles qui remplissent ce rôle. Et c'est souvent la solution préférée par de nombreuses personnes handicapées parce que ça n'introduit pas de fausses relations. Mais pour conserver un sens d'indépendance, ou du moins l'illusion de l'indépendance, l'assistant personnel doit devenir invisible. Et comme le disait Lynn May Riva, qui a beaucoup travaillé sur les aidants et sur les assistants personnels, elle disait: l'aidant doit créditer son travail à la personne qu'elle aide. Et dans différentes interviews qu'elle a menées, elle a dit que créditer la personne handicapée est sans doute la partie la plus importante du care. Et ensuite, elle écrit: maintenant, comment est-ce que quelque chose d'invisible peut être valorisé? Un consommateur veut une relation professionnelle, mais le travail est difficile à valoriser puisque c'est un travail d'amour. Et c'est là qu'il faut pouvoir valoriser l'indépendance et mettre un terme à cette stigmatisation de la dépendance. Dès lors que l'on réfléchit à la dépendance, il faut se poser la question suivante. Est-ce qu'il est possible de protéger les avantages gagnés par les personnes handicapées dès lors qu'elles demandent leur indépendance sans restigmatiser ceux qui ne vont pas bénéficier de cette aide? Est-ce que nous pouvons accepter le caractère inévitable de la dépendance sans nier les effets négatifs d'une dépendance imposée pour de nombreuses personnes handicapées? Et pouvons-nous accepter la dépendance de les aidants sans subordonner leurs intérêts à ceux de la personne handicapée?
Donc l'asymétrie de dépendance fait partie de la condition humaine. Nous sommes sans pouvoir face à des forces sur lesquelles nous n'avons que très peu de contrôle finalement, et nous avons donc cette obligation de développer des liens de confiance, des systèmes de renvoi. Et avec de tels systèmes de confiance, il faut évidemment avoir la confiance de la personne qui bénéficie des soins pour que la vulnérabilité ne soit pas trop importante. Pour qu'il y ait un lien affectif, il faut qu'il y ait une ouverture affective de toutes les parties. Pour que la confiance se fasse, il faut des acteurs qui soient dignes de confiance. Pour donner de la légitimité à chacune des parties, à ce qu'il n'y ait pas de sentiment de diminution, le soin et l'aidant ont également besoin du soutien d'institutions sociales. Donc ce n'est pas simplement une question personnelle, c'est bien une question à la fois sociale mais aussi politique. Les vulnérabilités du dépendant dans cette relation de dépendance sont multiples et malheureusement les résultats ne sont pas inévitables lorsque la dépendance est gérée correctement. Alors, en éthique du care, il faut aller trouver de meilleures alternatives pour créer ces relations de dépendance avec à la fois des liens affectifs, des liens émotionnels de toutes les parts. Les relations qui peuvent transformer des relations qui sont sinon, qui peuvent être déplaisantes et en faire quelque chose d'agréable avec un sentiment de gratifiant, de bien-être et de dignité. Une vie véritablement indépendante, une vie où on n'a besoin de personne et personne n'aurait besoin de nous, ce serait une ville terriblement appauvrie et terriblement malheureuse. Une personne en situation de handicap n'est pas une exception. C'est une personne qui vit ce que toute personne peut vivre. Nous sommes inévitablement dans des situations de dépendance. Et au mieux, la vie est indépendante dans le sens que l'on peut, dans le sens de l'autodétermination. Mais la plupart d'entre nous peuvent autodéterminer un certain nombre de choses. Mais avec l'autodétermination vient également la présomption d'autosuffisance. Et une telle autosuffisance, eh bien, c'est toujours un mensonge, qu'on l'accepte ou non. Et je pense qu'il vaut mieux vivre sans mensonge. Donc, l'éthique du care, à quoi doit-elle ressembler? Il me reste combien de temps? Combien de temps me reste-t-il? Je peux certainement écourter un peu. Il me reste combien de temps?
10 minutes, ok.
Très bien. Donc, cette éthique du care ressemble à quoi? Alors, on va passer à la diapo suivante. Elle doit avoir trois composantes. Il y a le travail, il y a l'attitude et il y a une vertu. Dans la partie travail, il faut apporter de l'aide en laissant ses propres besoins de côté. On aide quelqu'un de plus vulnérable et parfois il y a un lien d'intimité avec les fonctions corporelles de l'autre. Cette partie de travail, c'est un travail physique sur le corps d'un individu. Dans l'éthique du care, l'existence de chacun dans nos individualités, dans ce que nous sommes et dans notre lien avec l'autre, ces choses-là ne sont jamais éclipsées. Et donc, le lien doit dignifier l'individu que nous sommes. Donc, le lien, l'entretien du corps de l'autre, ce n'est pas le care dont on a besoin lorsqu'on en parle d'éthique du care. Le care tel qu'il devrait être, le care ici a besoin d'une attitude appropriée, de réponse ouverte à l'autre. C'est absolument essentiel pour comprendre ce dont l'autre personne a besoin et ce qu'elle attend. Le care, c'est également une vertu à cultiver, une disposition à avoir cette attitude entre vos propres besoins et les besoins de l'autre. Lorsque cette vertu est respectée, on est capable de répondre aux besoins même lorsque les personnes ne se connaissent pas si bien que cela. Le care, ce n'est pas simplement le care pour l'autre, mais c'est également le care pour le care. C'est-à-dire que ces gens-là reconnaissent une valeur suprême au care qu'ils proposent, qu'ils offrent aux bénéficiaires. Alors, lorsque l'on parle de l'éthique du care, on peut essayer de le contraster avec d'autres théories libérales. Je vais aller assez rapidement sur cette partie-là, mais l'éthique du care, me semble-t-il, démarre avec une partie morale. Je crois que nous sommes toujours soi dans une relation, le soi en tant que relation. Et cette capacité relationnelle de soi sont particulièrement nécessaires dans les vraies relations basées sur le care. Les relations de care, ou l'éthique plutôt du care, reconnaît que les relations morales ne sont pas simplement choisies par soi, elles ne sont pas forcément volontaires, mais souvent ce sont des relations dans lesquelles on se retrouve, c'est comme ça. Les conditions dans lesquelles on rentre ou on sort de ce type de relation sont parfois extrêmement contraintes et ces relations sont parfois ou très souvent asymétriques. Donc l'éthique du soin doit porter une grande attention à comment le pouvoir est exercé dans ce type de relations de nature souvent asymétrique, des relations où l'on ne rentre pas forcément de manière volontaire, je le disais il y a quelques instants. Alors, il y a des théories morales qui prennent la délibération rationnelle comme étant la chose la plus importante dans l'éthique et dans des décisions dites éthiques. L'éthique du care dit oui, la délibération rationnelle est importante, mais ce n'est pas tout. On a également besoin d'affiner nos sentiments. Il faut acquérir cette capacité à avoir les sentiments dont on va avoir besoin pour l'éthique du care. L'empathie, par exemple. Et peut-être la différence la plus fondamentale entre les théories dans les théories morales sont dans les objectifs des interactions morales. L'éthique du care met l'accent sur le bien-être, l'épanouissement de l'autre pour leur propre intérêt et l'importance morale de donner à chacun cette capacité de s'épanouir. Dans l'éthique du care, les relations elles-mêmes sont importantes. Notre lien, être connecté à l'autre, et lorsque les relations sont cassées, c'est évidemment quelque chose de mauvais et de dommageable. Mais dans l'éthique du care, Lorsqu'il y a problème, lorsque les besoins légitimes ne sont pas satisfaits, et lorsque il y a indifférence, lorsqu'il y a de la vulnérabilité, lorsqu'il y a abus plutôt que care, et plus particulièrement lorsque les connexions humaines sont rompues à cause de l'exploitation, de la domination, de blessures, de détachement, voire d'abandon. Et dans l'éthique du care, voilà, pardonnez-moi, je vais sauter cette partie-là, et celle-ci également. Donc, voilà, on est un peu plus loin. Voilà. Donc, l'éthique du care doit naviguer sur un chemin parfois étroit entre le paternalisme et l'évitement de la négligence. Et c'est particulièrement vrai lorsque l'éthique du care est à destination de personnes en situation de handicap. Pour que l'éthique du care existe, on ne peut pas avoir trop de care, je le disais tout à l'heure. Voilà, on ne peut pas non plus avoir trop de justice. Si on donne trop de care, à ce moment-là, je pense qu'il y a eu un manquement quelque part. Et je pense que la raison derrière cela, c'est que l'on ait apporté du care, cela dépend au final de si mon action est acceptée par l'autre en tant qu'action de care. Alors, ça, c'est un point, me semble-t-il, important, ce dont on a besoin. Souvent, on pense que il suffit d'avoir une bonne intention de care. Et ce que je dis, ce n'est pas ce qui compte, c'est ce qui est en face. C'est la capacité à recevoir, à prendre, en anglais on dit « take up », c'est donc à quasiment absorber, accepter ce care qui vous est proposé. Regardez une plante qui est flétrie, je lui apporte de l'eau. Imaginons que si, au lieu d'avoir de l'eau, c'eût été du vinaigre, eh bien, il est probable que la plante ne remonte pas la pente. Me suis-je occupé de cette plante? Vous allez me dire non. Eh bien, je pense que cet exemple montre qu'on a un sens très intuitif, que le bien-être de l'autre doit être affecté de manière positive par nos actions, si nos actions doivent être considérées comme étant du care. Et au moins, il ne faut pas qu'il y ait d'impact négatif. Donc, ce qui est important ici, c'est que si la personne dont vous cherchez à vous occuper rejette le care ou rejette le soin que vous tentez de lui apporter, pour améliorer leur situation, pour simplement répondre à ses besoins, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous, en étant convaincu que ce que vous faites est bien, si cette personne ne souhaite pas recevoir ce care, eh bien, vous avez une attitude paternaliste et non pas de care. Et ce dernier point est important, puisque le care doit être guidé par le bien de l'autre, de la personne qui reçoit le care. C'est ça qui doit, au final, déterminer ce qui est bien pour ces personnes-là, bien tel que perçu par cette personne-là, et non pas l'autre. Si le care est proposé de cette manière-là, eh bien, dans ce cas-là, on induit automatiquement le concept de respect pour la personne. Le care, le respect ne sont certainement pas opposés. Le care, ce n'est pas du paternalisme. Le care commence en ayant compris les besoins et les attentes de l'autre. Si on appréhende l'idée du care de cette manière-là, je pense que l'on va pouvoir surmonter beaucoup d'objections au care et dans l'éthique du care que l'on entend très souvent. Ce qui est important, c'est que le care, dans ce sens-là, soit reconnu aujourd'hui. Merci.